auditeurs, chers auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, bonjour. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle semaine et nous allons parler d'un certain nombre de choses qui sont d'actualité sur ce qui va se passer dans les mois à venir en France. On va parler des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, j'ai choisi trois thèmes d'actualité qui ont été traités dans le journal Mediapart, un journal que tout le monde connaît, qui est un journal en ligne qui a été créé par l'ancien directeur du Monde, et ce journal-là est capable de mettre en avant certaines thématiques et de les traiter de manière un petit peu plus libre que d'autres. J'ai dérapé sur le nom du fondateur de Mediapart, c'est Edoui Plenel, bien sûr, tout le monde le connaît. Donc, dans ce journal, c'est pour ça que j'ai choisi ce journal-là, parce que c'est un journal qui est un petit peu plus libre que d'autres en France, où on sait que la presse est souvent plus ou moins mutilée et empêchée de parler. Et donc, il y a des thématiques qui sont traitées dans Mediapart en transversal qu'on ne voit pas toujours dans les journaux habituels. Et par exemple, ce thème-là, celui des Jeux Olympiques, je vais en parler sous l'angle d'un article qui a été écrit par Faïza Zerwala, qui a été publié le 18 février 2024. Et c'est un article qui nous parle du fait que les villes organisatrices des Jeux Olympiques ont toujours veillé à éloigner les populations jugées indésirables du cœur de la compétition. Et elle nous dit, la journaliste Faïza Zerwala, que Paris n'échappera pas à cette loi, car c'est hélas gravé dans l'ADN des Jeux. Il y a des militants canadiens et français qu'elle a interviewés qui ont témoigné que effectivement chaque année, il y a un véritable Jeux Olympiques, dans la ville où ça a lieu, il y a un véritable nettoyage social qui s'opère et on fait partir les gens qui gênent. La capitale française, 16, va vouloir présenter son image la plus flatteuse à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont se tenir l'été prochain. Et elle va donc opérer un nettoyage social, selon l'expression des associations d'aide aux personnes précaires, en alerte maximale avant cet événement de masse aux importants enjeux financiers. Paul Alozzi, coordinateur de Médecins du Monde et porte-parole du Revers de la Médaille, une fédération d'associations qui réunit 80 associations et ONG françaises, travaille avec des personnes en situation de précarité et dénonce le côté sombre de la compétition mondiale. Le collectif Revers de la Médaille a invité une délégation venue témoigner de ce qu'a vécu la population de Vancouver au Canada lors de la préparation des Jeux Olympiques d'hiver de 2010. Nathan Crompton est l'un d'entre eux. Historien et militant, il travaille dans une association qui vise à la réduction des risques chez les usagers de drogue. À ses yeux, l'inquiétude des associations est légitime, car il a vu les déplacements de population se produire à Vancouver. Il doute que les Jeux de Paris diffèrent en matière de traitement des personnes sans-abri et des exclus. À Vancouver, la pression était intense dès 2009, se remémore-t-il. Un campement de tentes avec près de 200 personnes s'était installé sur un site qui serait utilisé un an plus tard dans le cadre des Jeux Olympiques. Après plusieurs semaines de négociations et de luttes avec la municipalité, les personnes avaient été orientées vers des foyers d'hébergement au confort spartiate. C'était une petite victoire, mais pas tant que ça. Les militants ont compris que les mois suivants allaient être compliqués. Plus largement, dans les années qui ont précédé un processus de criminalisation, s'était développé dans les quartiers défavorisés. Nathan Crompton raconte que pléthore d'amendes ont ainsi été distribuées aux vendeurs à la sauvette. Ils ont même modifié la loi pour pouvoir verbaliser les personnes qui traversaient en dehors des passages piétons et celles qui étaient dans la rue qui avaient l'air pauvres ou urinaient dehors. Plusieurs se sont retrouvés avec des piles d'amendes impossibles à payer. La loi qui s'appelait à l'époque l'Assistance Shelter Act, ASA, et qui avait été publiée en automne 2009, avait fait scandale et elle avait été rebaptisée par ses opposants l'Olympic Kidnapping Act. Elle prévoyait qu'en cas de conditions météorologiques extrêmes, les sans-abri pouvaient être conduits avec une force raisonnable dans des centres d'hébergement d'urgence. Les militants, comme Nathan Crampton, considèrent qu'il s'agissait surtout de débarrasser les rues des sans-abri, car les températures rudes ne sont pas apparues avec les Jeux Olympiques, souligne-t-il. Dave, l'un des membres de la délégation canadienne sans-abri à Vancouver à l'époque, rapporte que la police proposait 50 ou 100 dollars aux personnes à la rue en échange d'un départ de la ville. Mais Laura Koch, géographe urbaine, chercheuse à l'université Paris-Est-Créteil, travaille sur la gestion des espaces publics en temps de crise. Elle a accompagné la délégation de Vancouver lors de sa semaine parisienne. Ses observations de terrain se sont déroulées dans le nord-est de Paris, en particulier Porte de la Chapelle, l'un des endroits clés des Jeux Olympiques, avec l'aréna construite pour cette occasion. Elle voit des points communs avec la situation de Vancouver. Elle a pu observer les changements au fil des mois dans la capitale, notamment sur le nombre de contrôles policiers en augmentation. Il y en avait une fois par semaine, une fois par mois. Désormais, les sans-abri, les travailleuses du sexe, les usagers de drogue disent que cela se produit plus souvent, plusieurs fois par semaine. Le revers de la médaille dénonce depuis déjà plusieurs mois les démantèlements de campements informels en région parisienne, les déplacements des personnes sans-abri vers les SAS régionaux en province, les évacuations de foyers de travailleurs immigrés ou l'interdiction de distribution alimentaire. En avril 2023, par exemple, le squat Unibéton, qui abritait 400 personnes à l'île Saint-Denis, a été démantelé. Le collectif Schaeffer a compté que plus de 4000 ressortissants de pays africains ont été déplacés de la Seine-Saint-Denis pour les seuls squats et foyers de travailleurs migrants, sans compter les personnes déplacées dans les SAS d'hébergement régionaux ouverts au printemps 2023. Le Secours catholique sonne la même alerte et s'apprête à publier un plaidoyer appelant à prendre en compte les oubliés de la fête. L'association déplore que la France s'apprête à mettre la poussière de la pauvreté sous le tapis plutôt que de tenir la promesse de Jeux solidaires. Les associations établissent un lien avec les Jeux olympiques en raison de la concomitance de ces expulsions avec l'événement, même si la préfecture de la région Île-de-France a démenti ces accusations. Elle assure au contraire proposer des places qualitatives à des personnes qui sont à la rue et faire un travail social de fond. Des arguments peu convaincants, visiblement, puisque fin janvier, la défenseure des droits Claire Hédon, alertée par les associations membres de son comité d'entente précarité et par voie de presse, s'est autosaisie. Elle va mener une enquête indépendante pour évaluer les risques d'atteinte aux droits et libertés, ainsi que d'éventuelles situations de discrimination dans le contexte de la préparation et de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Claire Hédon entend entre autres évaluer les risques de restriction de la liberté d'aller et venir dans les zones concernées par la compétition, mais aussi de l'éviction de l'espace public de personnes jugées indésirables en amont des Jeux. Elle va aussi surveiller l'orientation des personnes sans-abri vivant à Paris vers des sas d'accueil temporaires régionaux. En parallèle, des actions militantes commencent à être organisées pour dénoncer ces Jeux olympiques. Ce que j'en pense, c'est que d'un certain côté, on estime, c'est un peu normal qu'avec un afflux tel de population qui viennent voir les Jeux Olympiques de loin, c'est un petit peu normal que, comme dans toutes les autres villes qui ont accueilli les Jeux Olympiques, on veuille donner une image saine de la ville de Paris, alors même qu'il est vrai que cette image est quelque peu ternie par la présence de nombreuses personnes qui sont en situation de précarité dans les rues de Paris. Cela dit, je pense qu'au lieu de prendre des mesures de coercition au dernier moment, les pouvoirs publics auraient pu s'y prendre 5 ans à l'avance au moins, non pas seulement dans la perspective des Jeux Olympiques, mais dans une perspective plus élargie d'assainissement de la ville parisienne en général, concomitante avec une amélioration de la situation des personnes concernées et en situation de précarité. En organisant des départs de la ville de Paris vers la province de manière plus ou moins soft, à l'appui d'associations spécialisées dans la prise en charge des personnes en situation de précarité, vers d'autres villes donc régionales, en assortissant ces déplacements, parce que bien entendu c'est pas des déplacements d'office, tout ça ne doit pas se faire dans une perspective de coercition, mais en organisant tout cela de façon à ce que les personnes en situation de précarité puissent bénéficier sur place, sur leur lieu de relogement, de mesures visant à les réinsérer et surtout en premier lieu à leur assurer un logement confortable et une situation de vie décente. C'est une opération qui devrait être menée depuis longtemps, en commençant par la ville de Paris et ensuite en élargissant l'action aux autres grandes villes de France qui, elles aussi, souffrent de la présence de nombreuses personnes en situation de précarité dans leurs murs. Ce n'est pas au dernier moment qu'on doit s'y prendre. Il y a beaucoup de lieux sur le plan rural, ils sont suffisamment nombreux en région, dans les petits villages et les petites villes, ces lieux d'accueil potentiels sont suffisamment nombreux pour permettre qu'un certain nombre de personnes en situation de précarité puissent y être accueillies sans qu'elles soient trop nombreuses et ne viennent perturber la vie des habitants en local. C'est fort dommage qu'une telle opération ne soit pas mise en place depuis un certain temps, surtout depuis qu'on sait qu'il va y avoir les Jeux Olympiques et que donc on va être obligé de faire partir les gens de manière un petit peu trop coercitive. Un rapport d'une organisation de défense des droits au logement basée à Genève, qui date de 2007, et il faut savoir que l'association a fermé ses portes en 2014, s'est intéressée à Sainte-Olympiade entre 1980 et 2007. Son constat est implacable. Dans l'ensemble, pour les pauvres et les marginaux, les Jeux Olympiques ont souvent été synonymes de précarité supplémentaire, notamment de vulnérabilité liée à la perte de leur logement et d'exposition à la violence. C'est ce qu'a pu constater Jules Boykoff, professeur en sciences politiques à la Pacific University dans l'Oregon aux États-Unis. Il a décortiqué comment les jeux affectent les classes sociales les plus défavorisées dans plusieurs publications, notamment dans un livre à paraître en mars, What Are the Olympics For?, un livre coécrit avec Dave Zirin. L'enseignant états-unien s'est installé quelque temps à Londres en 2012, en amont de la compétition, et a fait de même à Rio de Janeiro en 2016. Auprès de Mediapart, il est formel. Les Jeux Olympiques sont une machine à amplifier les inégalités. Il poursuit, il y a quelques tendances claires, par exemple en 1988 pour les Jeux de Séoul en Corée du Sud, plus de 700 000 personnes ont été déplacées pour faire place nette. Idem à Pékin en Chine en 2008 avec plus d'un million de personnes délogées. Ce n'est pas l'apanage des dictatures, reprend Jules Boykoff, convoquant l'exemple d'Atlanta en Géorgie aux États-Unis en 1996. Cette édition a été parmi les plus agressives vis-à-vis des plus pauvres. Beaucoup d'entre eux ont été envoyés à l'autre bout de la ville en bus vers l'Alabama ou la Floride. Des logements sociaux ont été détruits car la tendance commune des Jeux Olympiques est de vouloir cacher les pauvres. En effet, dans la ville de Géorgie, 30 000 familles pauvres ont été déplacées, en majorité des personnes africaines et américaines. Une organisation à but non lucratif a distribué des milliers de dollars de fonds accordés par les gouvernements locaux pour acheter des tickets de bus, aller simple pour les pauvres et les sans-abri, afin de leur faire quitter la ville pour les Jeux Olympiques. La tendance est si lourde qu'elle traverse les décennies et j'étais en Tokyo en 2019, nous dit Jules Boykoff. J'ai interviewé deux femmes qui avaient été expulsées pour les Jeux Olympiques de 1964 et elles ont été déplacées à nouveau à l'occasion de ceux de 2020. À Vancouver, l'espace public avait été contrôlé de toutes parts. On était loin du compte en termes d'inclusion sociale, confirme l'urbaniste Irwin Houssini, membre de la délégation canadienne et à l'époque en poste à la mairie. Il y aurait eu un marketing social avec la promesse d'être inclusif comme Paris le fait, mais sur le terrain, on a plutôt assisté à un nettoyage et à une militarisation de la ville. Alors, ce qui est dommage, et ce que soulignent les auteurs, et notamment le fameux Irwin Ostindi, c'est que souvent, il y a des infrastructures nouvelles qui sont mises en place. Je rappelle que Irwin Ostindi est urbaniste canadien. Et ces infrastructures, c'est un petit peu... sont mises en place souvent pour donner une bonne image des villes ou des régions qui vont être traversées par ceux qui viennent assister aux Jeux Olympiques. Par exemple, à Vancouver, après les Jeux, nous dit Erwin Ostindi, 27 000 nouveaux logements sociaux avaient été promis dans la ville. Mais comme il a fallu rembourser la facture des Jeux Olympiques, ils ont été vendus à un coût élevé et pas pour les plus pauvres. Pour lui, c'est une trahison claire des promesses que la ville avait formulées. Dans l'ensemble, pour les pauvres et les marginaux, les Jeux Olympiques ont souvent été synonymes de précarité supplémentaire, notamment de vulnérabilité liée à la perte de leur logement et d'exposition à la violence, confirmait le rapport suisse. Voilà. Dans un livre qui s'appelle « Restreindre le public dans l'espace public, les Jeux Olympiques de Londres 2012, l'hypersécurisation et la jeunesse marginalisée », les sociologues Jacqueline Kennelly et Paul Watt écrivent « Contrairement à ce qu'affirment les organisateurs des Jeux Olympiques de 2012 à Londres, qui se veulent une célébration pour tous, nous relatons l'expérience des jeunes à faible revenu et à logement précaire qui ont été exclus des avantages liés à la tenue des Jeux dans leur quartier ». Le quartier est devenu beau, le quartier de Stratford, un quartier qui était un trou à rat auquel personne ne s'intéressait, et il n'est devenu beau qu'à l'occasion des Jeux Olympiques de cette année-là. C'est une notion quand même à relativiser, puisque quelque part, même si forcément on peut déplorer que les situations, qu'il y ait des personnes qui soient en situation de précarité et qui soient sans abri dans les grandes villes, il ne faut quand même pas non plus regretter que ce quartier de Vancouver, Stratford, soit devenu un beau quartier néanmoins, alors que c'était un quartier qui avait été jusqu'ici complètement négligé. Stratford, c'est à Londres. Hein. On sait qu'à Londres, il y avait beaucoup de quartiers qui, à une certaine époque, étaient négligés. On ne peut pas regretter que ce quartier-là soit devenu beau. Même chose. Concernant les Jeux Olympiques, les infrastructures qui sont mises en place à l'occasion des Jeux Olympiques, à Séville, lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques de Séville, eh bien, il y a eu à cette occasion-là, alors même que cette région du monde était complètement désertée, il y a eu comme une espèce de miracle, puisque on a fait des autoroutes dans le sud de l'Espagne, alors qu'autrefois ça n'arrivait pas, et ça a beaucoup contribué à développer le sud de l'Espagne. Donc quelquefois ça a quand même du bon. Même si, bien entendu, pour les sans-abri, l'existence d'autoroutes dans le sud de l'Espagne ne va pas arranger leur situation non plus. Faut pas non plus s'imaginer que ça bénéficie à tout le monde. Et en Espagne, c'est arrivé c'était en 1999. Voilà. Donc voilà, de même que à l'occasion des championnats, les Jeux Olympiques de Séville, c'était en 2004, je me suis trompée. Et par contre, en 1999, il y avait eu la construction d'un équipement sportif, un grand stade à Séville. Et donc là aussi, encore une fois, une grande manifestation sportive. Et fait bénéficier le lieu géographique concerné de nouvelles infrastructures qui profitent au plus grand nombre, même si c'est surtout aux classes moyennes ou aux classes moyennes supérieures, et forcément pas toujours sans abri. Voilà pour cet article sur les Jeux Olympiques. J'aimerais parler d'autre chose maintenant, le temps passe très vite, donc je sais qu'on est limité dans le temps pour cette émission comme pour les autres, puisqu'on n'a que 55 minutes devant nous. Je voudrais quand même parler de la mort de Navalny, puisque c'est quand même un fait marquant qui a marqué la semaine dernière, la quinzaine de jours précédant la date d'aujourd'hui. L'ancien blogueur est mort le vendredi 16 février 2024, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans de prison. Et donc, j'aimerais qu'on réagisse un peu sur cet événement. Morvan Lalouet est un spécialiste de la vie politique russe. Il est co-auteur de l'ouvrage Navalny, l'homme qui défie Poutine, qui a été écrit un petit peu après que Navalny ait été empoisonné en 2021. Celui-ci était rentré en Russie après avoir été soigné en Allemagne à la suite de son empoisonnement. Et Morvan Lalouet avait donc écrit ce livre avec deux autres auteurs, Ben Noble et Yann Mathy Dolbaum, aux éditions Talendier et publié en 2021. La personne qui a rédigé l'article pour Mediapart s'appelle François Bougon. L'article a été publié le 18 février 2024 et il a donc interviewé Morvan Lalouet. Il lui demande si on a raison de dire que Navalny c'est tout rose et Poutine et le pouvoir public et le pouvoir russe tout blanc, tout noir. Et Marwan Lanouer répond que effectivement, on a eu une vision hollywoodienne qui a été renforcée par l'empoisonnement de Navalny en août 2020 dans un avion de retour à Moscou. Et puis, il y a eu la décision spectaculaire de Navalny de retourner en Russie en février 2021 après son hospitalisation en Allemagne. Navalny n'est pas une personnalité isolée, nous dit-elle, et c'est ce qui explique l'ampleur de son empreinte politique. En une quinzaine d'années, Navalny a réussi à se faire connaître, mais aussi à créer un mouvement capable de lutter contre le régime de Poutine. Et à cet effet, il avait réussi à bâtir un réseau régional détruit, ce que l'on appelait en russe les quartiers généraux de Navalny. Cela montrait sa volonté de sortir d'un certain ghetto libéral moscovite ou pétersbourgeois pour créer une organisation plus large et recruter des partisans et s'étendre. Progressivement, il s'est constitué ce qu'on a pu qualifier un empire médiatique. Avec toutes ses chaînes YouTube, Navalny s'est transformé en présentateur télé. Il animait une émission de 2 heures sur YouTube toutes les semaines. On se souvient bien sûr d'une des vidéos de Navalny dénonçant la corruption de Medvedev ou de Poutine. Il se différenciait des autres opposants parce que l'opposition en Russie est d'abord diverse et elle est traversée par des conflits et des désaccords. Mais il était au-dessus de tous ses concurrents en matière de notoriété, de popularité et de capacité d'organisation. Il était même devenu irremplaçable au sein du champ politique russe avant que tous ses efforts ne soient détruits par son emprisonnement à son retour à Moscou et que sa fondation de lutte contre la corruption, Fondation Anticorruption FBK, ne soit déclarée extrémiste, ce qui équivalait à une interdiction de fait. Il est important de rappeler que Navalny a commencé sa carrière politique au sein d'un parti politique libéral, Yabloko, la pomme en russe. Très tôt, au début des années 2000, il est inséré dans le petit milieu de l'opposition et des médias de Moscou. Il est intégré au petit monde d'hommes politiques, d'universitaires et de journalistes libéraux que l'on désigne en russe sous le terme de Tusovka, la clique. Mais assez vite, il s'est rendu compte des limites de ces partis traditionnels qui vont aussi connaître de lourdes défaites électorales. À partir de là, il a cherché à renouveler l'action politique, ce qui l'a amené à prendre des directions dont certaines sont critiquables, comme le nationalisme. Il a ainsi renouvelé le discours sur la corruption et la lutte nécessaire contre le phénomène, et ce de manière originale pour l'époque, en recourant à l'expertise technique. Grâce à ses compétences juridiques et financières, Navalny était en mesure de dire qui était corrompu et comment, à préciser où allait l'argent. De plus, il n'hésitait pas à se montrer ironique et acerbe. Le résultat est que son blog, à la fin des années 2000, était très lu et commenté. Il présentait ainsi un discours critique du poutinisme qui paraissait neuf. Cela explique l'attrait qu'il exerçait sur un public nombreux, et pas seulement sur les gosses riches, comme l'affirmait le pouvoir. En 20 ans de carrière, il a joué 3 rôles. Celui de militant anticorruption, de politique et de protestataire. Il a commencé comme membre du parti Yabloko, où il s'est occupé de l'organisation, des campagnes, des médias. Et en 2013, il a été candidat à l'élection municipale de Moscou. À l'époque, le calcul du Kremlin était de tabler sur sa défaite pour montrer qu'il n'était qu'un petit blogueur sans popularité. Un mauvais pari, car Navalny se révèle être un vrai homme politique. Il mène une campagne très efficace et moderne, s'inspirant des pays occidentaux, en particulier les États-Unis, avec des équipes de militants qui vont frapper aux portes, distribuer des tracts à la sortie des stations de métro, etc. Son image est très travaillée. Il se met en scène avec sa famille. Bref, il réalise un bon score pour quelqu'un de jeune, une 30aine d'années à l'époque, et de peu connu, 27%. Malgré les tentatives du pouvoir de l'en empêcher, nous dit Marwan Lanouer, il se présente en 2018 à la présidentielle. Il voyage dans le pays, organise des meetings, rencontre des activistes de tout le pays, la presse locale, etc. C'est la stratégie politique qu'il a toujours assumée, tenter de prendre le pouvoir par des moyens démocratiques. Une autre dimension importante dans sa carrière est le recours aux protestations de rue. Dès 2011-2012, il montre ses talents d'orateur en s'adressant aux foules et se fait arrêter par la police. Au fur et à mesure que le régime se durcit, il utilise de plus en plus la protestation en tentant de faire descendre les gens dans la rue. Cette stratégie va être victime de son succès puisque aujourd'hui, il est tout simplement interdit de manifester en Russie. Et le journaliste François Bougon pose la question à Marwan Lanouer sur sa critique des prises de position racistes envers les Tchétchènes. Si on utilise les catégories françaises, me répond Morvan Lalouet, Navalny est de droite. Il se présente lui-même comme conservateur. Dans sa jeunesse, après l'effondrement de l'Union soviétique, il s'est montré favorable aux réformes de marché et au capitalisme. Les prises de position nationalistes que le journaliste évoque comprennent une part de xénophobie dirigée principalement à l'encontre des immigrés d'Asie centrale et des ressortissants du Caucase. Elles correspondent aux préjugés de son milieu. Et Morvan Lalouet de rajouter, à la fin des années 2000, face à la crise du mouvement démocratique libéral en Russie, Navalny y a vu aussi une opportunité politique, car le nationalisme était alors en vogue. Cela l'a conduit à mettre en avant un discours anti-immigration afin d'élargir l'audience du mouvement démocratique libéral. Certains nationalistes penchant alors dans l'opposition à Poutine. Navalny a même envisagé une alliance entre ces deux mouvements. De plus, il a observé ce qui se passait en Occident dans les années 2000, marqué par le succès du Front National en France et celui de Jörg Haider en Autriche. Il s'est dit que cela pouvait marcher également en Russie. Par la suite, lors des grandes manifestations de 2011-2012, il a fait le constat que le potentiel oppositionnel du nationalisme avait été surestimé puisque la grande majorité des manifestants provenaient du camp des démocrates libéraux et des défenseurs des droits humains et non des rangs nationalistes. Il a donc abandonné ce discours et est revenu sur ses déclarations, ce qui peut laisser penser que ses convictions avaient changé. Et il a d'ailleurs regretté ce qu'il a pu dire sur les Géorgiens et les Caucasiens. Lors de l'annexion de la Crimée, il a dénoncé une violation du droit international et des engagements pris par la Russie. Il n'appartient pas à ceux qui ont communié dans la ferveur patriotique, mais il affirme que fondamentalement, les habitants de Crimée ont envie de vivre en Russie et que par conséquent, il sera difficile de rendre la Crimée à l'Ukraine. Pour lui, à ce moment-là, la Crimée restera russe à l'avenir, même s'il ne soutient pas du tout ce qui se passe dans le Donbass. Il est hostile à l'insurrection fomentée par la Russie, comme au soutien entre séparatistes. Et puis après, il va tourner. Jusqu'ici, il pouvait s'entendre encore à peu près bien avec Vladimir Poutine. Ça, c'est une réflexion de ma part. En dehors des considérations de Morvan Lalouet, l'auteur du livre, et en dehors des considérations de François Bougon, à cette époque-là, effectivement, il pouvait encore s'entendre avec Vladimir Poutine et on peut regretter que Vladimir Poutine n'ait pas souhaité profiter de la position à l'époque de Alexei Navalny et donc de l'opposition pour s'en faire une alliée puisqu'ils avaient a priori les mêmes tendances xénophobes vis-à-vis des habitants du Caucase, mais également les mêmes idées vis-à-vis du devenir de la Crimée et de son appropriation par la Russie. Et malheureusement, Vladimir Poutine n'a pas souhaité visiblement s'organiser pour une telle alliance et une telle coopération avec son opposition, ce qui est dommage parce que ça lui aurait permis peut-être de construire la Russie d'après. Effectivement, peut-être que Vladimir Poutine a encore de longues années devant lui, mais il faudra bien un jour qu'il prépare sa succession et il est à souhaiter, s'il aime son pays, qu'elle se fasse en accord avec les aspirations de la majorité des Russes. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Alexei Navalny, à partir de 2000, je pense d'ailleurs, je me demande finalement si en fait le fait que Navalny soit resté vivant aussi longtemps ne témoignait pas d'une telle prise de position de la part de Vladimir Poutine. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2022, Alexei Navalny a commencé à critiquer les réactions russes. Il juge que l'Ukraine doit revenir à ses frontières de 1991 et donc qu'il faut rendre la Crimée à l'Ukraine. Et donc forcément, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à mal se passer pour lui, puisqu'il condamne l'agression russe de février 2022. Et c'est, je pense, pour cette raison-là qu'il n'est plus là. Il militait pour une Russie heureuse. Ce qu'il voulait, c'est que la Russie soit un pays riche et prospère. Pour lui, la corruption, c'était d'abord le vol des citoyens russes, le vol du développement de la Russie. Son modèle s'est inspiré de l'Occident, avec un État social développé, où personne n'était censé vivre dans la misère. Il rejetait également le sacrifice du présent à des objectifs lointains et grandioses. Et en politique étrangère, développait un discours isolationniste et dénonçait par exemple les dépenses militaires en Syrie. Donc je pense que... il est à souhaiter, que les vœux de feu Alexei Navalny soient un jour exaucés et que plus personne ne vive dans la misère en Russie, que la corruption en Russie s'arrête au profit d'une économie prospère de développement et de production de valeur ajoutée. Voilà. La question d'une journaliste, pour finir, est-ce que la Russie est entrée en dictature depuis sa mort ? Morgan Lalouet nous dit que c'est ce qu'il a pensé en août 2020 et que lors de la tentative d'empoisonnement de Navalny, effectivement, on pouvait penser qu'on était en dictature. Et il pense que le point de bascule se situe non pas à la mort de Alexei Navalny, mais bien en 2020. Il avait une organisation légale qui était le premier mouvement d'opposition russe, dit-il, une opposition vraiment indépendante du Kremlin. On décide de l'éliminer, et même si cela échoue, nous dit-il, cela signifie que le premier opposant du pays pouvait être assassiné par un escadron de la mort. Il nous dit, il rajoute qu'on a assisté à un assassinat politique qui a duré près de 4 ans. Désormais, nous dit-il, il n'y aura plus d'opposition indépendante en Russie. La mort de Navalny en prison vient acter cette situation. Le mouvement qu'il a laissé ne survivra pas à sa mort. Il n'y a plus aucune activité politique indépendante. Les cadres du mouvement sont partis à l'étranger. Le réseau régional a été démantelé. Est-ce que quelque chose va survivre et renaître ? Je ne pense pas que ça se fera sans l'appui et la volonté de Vladimir Poutine. Voilà. Donc, pour ce dossier et cet article de Mediapart, on va faire une petite pause musicale maintenant, une surprise. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je vous laisse écouter. Et après la musique, nous verrons ensemble si vous avez deviné de quelle musique il s'agit. Voilà. Est-ce que vous avez reconnu la musique ? Alors, je vous le donne en mille. Le nom du morceau, c'est Canon. Et puis, le compositeur, c'est Johann Pachelbel. Alors, le morceau est très très connu. On connaît moins le nom du compositeur et encore moins celle de, pour ceux qui ne sont pas férus de musique classique, celle du morceau musical. Alors, la version que je vous ai fait écouter, c'est une version qui a été jouée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui à l'époque avait encore comme chef d'orchestre le fameux Herbert von Karajan, qui a été un des grands chefs d'orchestre du monde. Il n'y a pas eu que lui, mais c'est un chef d'orchestre fameux. Voilà. J'espère que ça a plu à tout le monde. Je passe le bonjour à Milly, une amie de Chalon-Champagne, qui avait mis ce morceau sur son Facebook, je crois. Et donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté et je la remercie d'avoir fait partager son goût pour cette musique-là, et c'est d'autant mieux que je peux le faire partager à mes auditeurs. Nous allons maintenant parler d'un nouvel article de Mediapart qui est paru également le 18 février 2024 et qui a été rédigé par Céline Martelet, journaliste. L'article s'intitule « Survivre dans la bande de Gaza, un défi pour les femmes palestiniennes ». Dans la bande de Gaza, les femmes et les filles palestiniennes sont des victimes invisibles. Pourtant, selon l'ONU, elles représentent la majorité des personnes tuées ou blessées. Des victimes contraintes d'abandonner derrière elles toute une vie. Alors, l'article commence par évoquer une petite fille qui porte un faux nom pour les besoins de l'article, qui s'appelle Férouz, et qui parle tout le temps de son père, papa, Baba, parce que son papa est mort dans une explosion à Gaza. Par message audio, la mère de famille et la maman de Férouz s'excusent de mettre autant de temps à nous répondre, nous dit la journaliste Céline Martelet. Toujours cette connexion internet si lente, si instable dans l'enclave palestinienne soumise à un siège total. Ce n'est pas facile de vivre depuis la mort de mon mari, nous dit la maman. On prenait soin de notre fille ensemble. Je ne pensais pas devoir un jour élever seule une orpheline, confie la Palestinienne. Avant le 7 octobre, cette jeune veuve vivait à Gaza City dans un appartement au dernier étage d'un immeuble, proche de la mer, avec une cuisine, un salon à la décoration ultra moderne. Une terrasse depuis laquelle les couchers de soleil offraient une pause, une respiration, au cœur d'une bande de Gaza où la densité de population est l'une des plus élevées au monde. Son mari a été tué par une frappe aérienne israélienne quelques semaines après le déclenchement de la guerre. Elle était avec lui ce matin-là. Elle a survécu avec sa fille qui n'avait pas un an à l'époque. C'est très difficile d'être une jeune mère, nous dit-elle, parce que la guerre vous prend toute votre énergie. La peur de perdre son bébé dans une frappe aérienne nous paralyse, ajoute Férouz, la voix tremblante. Selon l'ONU, près d'un million de femmes et de filles ont été forcées de quitter leur logement. Elles vivent désormais dans des appartements surpeuplés, des écoles de l'ONU transformées en refuges, sous des tentes, ou même dans les couloirs des derniers hôpitaux devenus eux aussi des camps de déplacés. Jamais les femmes gazaouis n'avaient fait face à autant de défis au quotidien. Piliers de la société palestinienne, elles ont un rôle essentiel dans les familles. Les femmes, ici, gèrent beaucoup de choses. Elles s'occupent des enfants, de la maison, mais aussi des personnes âgées. Et ce sont elles qui font aujourd'hui la queue pour avoir de l'eau ou une bouteille de gaz, raconte Asma depuis Rafah. Une charge mentale insoutenable après plus de 4 mois de guerre. Dans un récent communiqué, l'ONG CARE alertait « À Gaza, les femmes sont les dernières à manger et les enfants sont les premiers à mourir. » Les récits des futures mères qu'a pu recueillir Mediapart racontent un cauchemar sans fin. Au début du conflit, selon l'ONU, 50 000 Palestiniennes étaient enceintes. Près de 180 mettent au monde un enfant chaque jour. J'angoisse pour mon accouchement. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce que j'aurai un docteur à côté de moi? Est-ce qu'il y aura encore un hôpital debout pour me prendre en charge? S'inquiète Nora. Son prénom a été modifié. Elle vit dans une tente à Nusayrat avec ses 3 premiers enfants. Chaque jour, elle doit trouver des vivres puis manger à même le sol. La nuit, les températures descendent très bas. L'air est humide. Il pleut régulièrement sur la bande de Gaza. La boue s'est incrustée partout ces dernières semaines et dans les magasins encore ouverts, les prix des denrées alimentaires se sont envolés. Reste l'aide humanitaire pour Nora et ses enfants. Des colis alimentaires qui entrent au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne et restent très insuffisants. La plupart sont distribués dans la ville surpeuplée de Rafah, à la frontière égyptienne. Très peu parviennent jusqu'à Nouseirat, plus au nord. Comment est-ce que je vais pouvoir allaiter? Où est-ce que je vais trouver des couches? On vit au jour le jour. Parfois, on nous apporte des boîtes de conserve. Mes enfants ont déjà beaucoup maigri. On ne trouve pas toujours de l'eau potable. Mais on n'a pas le choix. C'est comme cela qu'on vit maintenant. Plus la guerre dure, plus les hôpitaux sont encore en activité et sont débordés. Les blessés des bombardements affleurent et au milieu, dans ce chaos, des femmes viennent donner la vie. Depuis le début du conflit dans notre maternité, nous avons mis au monde 2739 bébés, expliquait fin janvier le docteur Marwan Nasser. Il est directeur de l'hôpital Al-Aouda à Nouseirat. Chaque jour, une cinquantaine de femmes enceintes arrivent. C'est beaucoup plus que d'habitude. Nous avons dû pratiquer près de 950 césariennes en urgence. Quelques heures après l'accouchement, les mères et les bébés doivent quitter l'hôpital. Beaucoup retournent dans des tentes où les conditions d'hygiène sont désastreuses. Il n'y a pas de place dans les maternités pour le suivi postnatal du nouveau-né et celui de la maman, même pour celles qui ont accouché par césarienne. Plongées dans un désastre humanitaire, certaines font aussi des fausses couches. Les nouveau-nés prématurés sont, eux, maintenus en vie dans les couveuses où les docteurs sont obligés de les entasser à 3 ou 4. Le docteur Zouaïr Lana ne parvient pas à sauver toutes les patientes qu'il prend en charge à l'hôpital de Rafah, dernier établissement mère-enfant de la ville. L'obstétricien marocain est parvenu à entrer dans la bande de Gaza le 20 janvier dernier avec l'association de médecins Palmed. Un jeune de 24 ans, diabétique, a perdu son bébé à 7 mois de grossesse. J'allais lui faire une césarienne pour sortir le fœtus mort. Elle me semblait aller mieux. Et puis son état s'est dégradé d'un coup. Le service de réanimation n'avait pas le traitement pour la sauver, raconte une voix épuisée, le médecin contacté par WhatsApp. Cela m'a choquée parce que je pensais vraiment qu'elle allait s'en sortir. Une autre femme est décédée parce qu'elle arrivait trop longtemps après le terme. On lui a fait une césarienne pour sortir le bébé, mais elle a fait une infection. Elle a décédé trois jours plus tard. Ces décès auraient pu éviter. Elles sont mortes à cause de la guerre. Nombreuses sont les femmes qui n'arrivent pas à rejoindre les hôpitaux et accouchent là où elles ont trouvé refuge. Autre source d'inquiétude pour le docteur Zouaïr Lana, les conditions de vie des nouveau-nés. Beaucoup souffrent de bronchiolite, par exemple. La moindre infection représente un risque de mortalité énorme, parce que nous n'avons pas les moyens humains et matériels de les sauver. Pour l'instant, le nombre de bébés décédés quelques semaines après leur naissance reste impossible à estimer. Ils sont enterrés rapidement. Personne ne vient visiter les parents pour présenter ses condoléances, comme le veut la tradition. La violence de cette guerre, l'urgence de survivre, empêche le moindre moment de deuil. Comment va-t-on sortir de cette guerre psychologiquement, s'interroge Férouz, la jeune veuve. Ils détruisent notre santé mentale. Le docteur Zouaïr Lana parle également de destruction. Je n'ai jamais vu un tel désastre humain en si peu de temps. C'est une destruction de la vie, lâche celui qui a consacré sa vie à l'engagement humanitaire. Dans la foulée de ce dernier message audio, il nous transfère un texte où il appelle à l'ouverture du point de passage de Rafah vers l'Égypte. Il écrit « Dans toutes les guerres, il y a toujours un moyen pour la population civile de quitter les zones de conflit. Les Palestiniens de Gaza sont coincés. De tous les conflits que j'ai vécus au Congo, en Éthiopie ou en Afghanistan ou en Syrie ou encore au Yémen, c'est le seul où la population ne peut pas se protéger et protéger ses enfants. » Sur les vidéos diffusées par les Palestiniens depuis la bande de Gaza, les femmes sont partout. Ce sont elles qui, dans les hôpitaux, sont au chevet de leurs petites filles ou de leurs garçons, couverts de sang. Ce sont elles aussi que l'on voit porter leurs enfants à bout de bras lorsqu'elles doivent fuir toujours plus au sud. Et ce sont elles enfin que l'on voit autour des tentes, lever du pain, faire du pain ou laver des vêtements. La situation est particulièrement difficile pour les femmes et les jeunes filles. Nous ne pouvons pas trouver de protection hygiénique lorsqu'on a nos règles. Impossible d'avoir des médicaments pour réduire nos douleurs menstruelles, raconte Yara. Elle a 22 ans. Avant la guerre, cette Palestinienne s'est mariée avec celui qu'elle décrit comme l'homme de sa vie. On a grandi ensemble. Pendant 12 ans, on était les meilleurs amis. Juste après leur mariage, le jeune couple s'est installé dans un appartement à Gaza City et puis il a fallu partir. Partir et abandonner tout ce qu'ils venaient à peine de construire. Un déchirement pour la jeune mariée. Une nuit, elle nous envoie deux photos. La première est prise depuis le magasin abandonné où elle s'est installée avec sa famille à Rafah. On y voit une rue sale, des déchets et des dizaines de personnes qui semblent presser le pas. Sur une barrière sèchent des vêtements d'enfants. Je ne pensais pas finir un jour ici, vivre comme ça presque à la rue. Le second cliché est un petit bouquet de roses dans un vase. Il n'y a rien pour célébrer l'amour à Rafah, mais il reste ses fleurs, écrit Yara. Si je meurs, je ne désire qu'une seule chose, ne pas être un numéro. Il faut que le monde sache qu'à Gaza, nous avons toute une histoire. Aujourd'hui, plus aucune jeune femme ne rêve d'un futur. Moi, après tout ce que j'ai perdu, il ne me reste que l'amour. Voilà. À savoir, pour rebondir un peu sur la question palestinienne, l'article en dit, en ce qui concerne les conditions de vie des femmes, des hommes et des enfants qui vivent dans la bande de Gaza actuelle, l'article que j'ai lu en dit suffisamment. Je rappelle qu'il s'agit d'un article de Céline Martelet sur Mediapart, publié le 18 février 2024. Pardon, je voudrais juste rajouter que il y a en ce moment des États qui portent plainte à la Cour internationale de justice et droits de l'homme pour que celle-ci statue sur les exactions menées par Israël contre les habitants de la bande de Gaza et également contre ce qui a précédé la guerre. Est-ce qu'il a d'ailleurs déclenché les actions de colonisation qui ont été menées par Israël sur la Palestine? La France fait partie des États qui ont porté plainte et l'avenir nous dira comment ça va évoluer. Voilà. Pour en revenir à l'actualité la plus récente, j'allais juste rajouter... Peut-être qu'aujourd'hui, Mediapart évoquait l'éventualité d'une trêve qui aurait été trouvée selon Washington. C'est un article du 25 février 2024. C'est juste une dépêche de l'AFP, de l'Agence France-Presse. Un terrain d'attente aurait donc été trouvé lors de récentes négociations à Paris pour décrocher une trêve à Gaza. C'est Jack Sullivan, le conseiller du président américain Joe Biden, qui l'aurait déclaré. Celui-ci aurait dit que les représentants d'Israël, des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar se sont rencontrés à Paris et sont parvenus à un terrain d'entente entre eux à propos des contours. Il y aurait un possible accord sur la libération des otages à venir et un cessez-le-feu temporaire, aurait indiqué sur CNN le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Celui-ci a rajouté qu'il faudrait qu'il y ait des discussions indirectes du Qatar et de l'Égypte avec le Hamas parce qu'à la fin, ils devront donner leur accord à la libération des otages. Ce travail serait en cours. Il a rajouté pour finir, nous espérons que dans les prochains jours, nous pourrons parvenir à un point où il y a effectivement un accord solide et final sur cette question. Des technocrates égyptiens, qataris, américains, israéliens et des cadres du Hamas ont repris dimanche à Doha les négociations pour une trêve à Gaza, a annoncé une télévision proche du renseignement égyptien. Et ces discussions seraient suivies de réunions au Caire, selon Al-Qaïra News, en plus de la déclaration de Jack Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden, sur CNN. Voilà, on en est là. Pour l'instant, ce sont juste des déclarations. À voir si tout cela va se confirmer. Les pourparlers qui ont lieu en ce moment à Doha assureraient le suivi de ce qui a été d'abord discuté à Paris. Et une délégation israélienne menée par le chef du Mossad, donc la police secrète israélienne, était vendredi à Paris pour un suivi du projet de trêve discuté fin janvier en France avec ses mêmes interlocuteurs. D'après toujours la rubrique de l'agence France Presse. C'est des choses, des nouvelles qui sont arrivées hier et que Mediapart a retranscrit. C'est juste une dépêche AFP. Pour l'instant, on n'a pas d'interprétation de tout ça. On ne sait pas exactement ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, à voir. Espérant que ça va encore s'arranger davantage pendant la semaine, je souhaite à tous nos auditeurs une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Au revoir. C'était une émission de Mail de Résistance, Radio Galère 88.4. À très bientôt.